on parle de démocratie et de numérique. Et j'ai avec moi Louis-Philippe Lampron de l'Université Laval.
Bonjour.
Bonjour. Et Gabriel Urtubiz-Radet de Polaire.
Bonjour.
Parlez-moi un peu de vous, Gabriel. Qu'est-ce que c'est Polaire, pour commencer?
Polaire, c'est une ligne d'écoute politique intelligente. Ça veut dire qu'on va reconnecter les citoyens et les décideurs publics qui, actuellement, sont très, très espacés. C'est un espace qui est créé parce qu'on n'a pas nécessairement les bons outils pour pouvoir dialoguer. C'est un espace qui est utilisé par les lobbies également qui vont défendre des intérêts particuliers. Donc, nous, on a l'intérêt de rassembler ces deux parties prenantes pour prendre de meilleures décisions.
Et Louis-Philippe, que fais-tu? Qui es-tu? Un petit qui?
Je suis professeur en droits et libertés de la personne à la Faculté de droit de l'Université Laval et je m'intéresse notamment aux conditions de maintien et de pérennité de la société démocratique par rapport aux différents coups de boutoir contre les institutions qui font en sorte qu'une démocratie demeure une démocratie. Et à ce titre-là, bien, je me suis intéressé évidemment à qu'est-ce qu'on fait avec le monstre des GAFAM qui est survitaminé par l'intelligence artificielle générative avec les risques de désinformation massive. Donc, voilà, c'est mon angle. J'ai une lunette de juriste.
C'est un bon angle.
Oui,
oui,
c'est un angle.
Oui, un angle de juriste en plus, c'est important. Oui. Et justement, c'est le sujet aujourd'hui, démocratie numérique. Puis ma question, c'est est-ce que les réseaux sociaux ont abîmé la démocratie?
Ah, clairement.
C'est-à-dire ah, oui,
que, hein? Ah oui, absolument. On pourra parler des algorithmes, mais moi, je fais partie de celles et ceux qui prétendent que là, le diagnostic a été posé. Là. C'est-à-dire que les GAFAM, puis le modèle d'affaires et la structure des réseaux sociaux actuels, que ce soit, peu importe, hein, Facebook, Twitter, Instagram ou quoi que ce soit... c'est mesurable. Il y a plein d'études qui vont dans ce sens-là, mais oui. À la base, ce qui est nécessaire pour la pérennité des débats démocratiques, là, ça va avec une grande, grande transparence et une imputabilité de celles et ceux qui gèrent le flot des informations, ce qui est directement contraire à la manière qu'ont les GAFAM de gérer leur plateforme. Et on a toutes et tous, en tout cas moi le premier, été berné par cette impression initiale de vitrine méritocratique, en fait, qui était associée. Ouais. Bon, on avait l'impression que le pacte avec le diable, c'était simplement
on
de dire...
C'est sous-jacent, quand même.
Et il faut arrêter.
Cet espoir qu'Internet nous a donné de devenir célèbre en étant dans son sous-sol.
Complètement. Mais là, on découvre qu'avec les algorithmes, on n'est même pas en contrôle de ce qu'on voit sur notre propre fil. Et ça, dans un contexte très, très time-sensitive comme un processus électoral, ça donne un pouvoir absolument démesuré aux propriétaires de ces plateformes-là pour déstabiliser pour longtemps des régimes démocratiques entiers. Alors, je pense absolument là, que le diagnostic est posé. Maintenant, il faut agir.
Gabriel, est-ce que c'est ça qui te fait partir ton plan d'affaires?
Effectivement, en Polaire, nous, on va chercher de la donnée citoyenne. La donnée citoyenne, elle se retrouve à différentes instances. Elle se retrouve quand les personnes parlent naturellement dans des conseils de quartier, dans des conseils municipaux ou d'arrondissement. Elle va se retrouver si les personnes vont aller directement sur Polaire. Mais la place publique, actuellement, elle n'est plus en personne. On se rend compte que la place publique a migré sur des plateformes technologiques. Et donc, la place publique se retrouve malheureusement dans les endroits qui sont construits, comme c'était mentionné, pour la polarisation. Cette place publique-là, c'est certain qu'il y a des biais conséquents. C'est-à-dire qu'on va avoir des chambres d'écho, des cascades informationnelles. On va avoir des cocons également d'informations dans lesquels on va se sentir plus confortable de partager certains commentaires à certains endroits parce qu'on sait que les gens vont être d'accord. Et ça, c'est des endroits qui ne sont pas propices pour le débat démocratique. Ceci dit, c'est quand même de l'information pertinente. C'est des données qui sont partagées. Ça ne veut pas dire que parce que l'outil n'est pas bon, que l'information en elle-même qui est partagée sur ces outils-là n'est pas pertinente. Donc, même si on a des commentaires qui ne sont pas nécessairement constructifs, eh bien, l'essence même de ces commentaires, à notre sens, elle doit être prise en compte. Et c'est nous, c'est ce qu'on va faire avec Polaire. On va aller encourager les citoyens et les citoyennes à aller sur Polaire pour présenter leurs commentaires.
Ah oui.
Donc, d'éviter les biais liés aux réseaux sociaux et d'offrir un nouvel endroit, une nouvelle place publique pour pouvoir s'exprimer. Mais on va aussi aller chercher d'autres sources de données pour faire en sorte que, peu importe l'endroit où les citoyens et les citoyennes s'expriment, on va être capable d'extraire ce jus-là. Ceci dit, on est conscient des biais des réseaux sociaux, on est conscient de leurs limites qui sont immenses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on construit une alternative. Et ces poids de commentaires sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne sera pas capable de mesurer si le citoyen ou la citoyenne est bien celle qui prétend être, eh bien, ces poids vont être inférieurs au poids des commentaires laissés simplement sur la plateforme.
Mais est-ce qu'on peut encore, en 2026, créer un endroit où ce n'est pas du négativisme et de l'indignation et construire quelque chose? On peut aller dans la direction où il y a encore l'espoir de pouvoir construire quelque chose avec ça?
Moi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, et on pourra en discuter, mais la question de la numérisation des rapports sociaux.
Oui.
Évidemment, il y a la question de la plateforme.
C'est arrivé, ça aussi, oui.
Tout à fait. Et ça crée une mise à distance qui va faire en sorte qu'évidemment, on parle de critiques négatives. Quand on n'a pas l'interlocuteur en chair et en os devant nous, nécessairement, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus virulent dans le commentaire qu'on va faire à la personne, parce qu'on oublie qu'on est en train de parler à un être humain.
C'est
oui, c'est le maire, bien sûr. Alors, moi, j'ai l'impression que, et c'est vraiment intéressant la plateforme, parce qu'il faut trouver une manière, de manière impérative, pour sortir de ces monopoles-là qui sont dysfonctionnels et pour moi, littéralement incompatibles avec ce qui est nécessaire à une démocratie saine, et trouver des manières de recréer du lien. Puis en ce sens-là, de plus petites plateformes associées à la démocratie de proximité que représentent les municipalités, moi, ça m'apparaît à courte échéance être le meilleur véhicule à harnacher pour être capable justement de reconquérir en fait nos forums publics. Puis moi, je pense que ça passe par une urgence à reconnecter humainement en fait entre celles et ceux qui délibèrent puis qui ensuite veulent prendre les décisions pour le bien commun.
Mais il n'y a pas un danger aussi, on parle des villes par exemple, il n'y a pas un danger que... Il y a une différence quand même entre la boîte de savon sur laquelle on monte pour crier notre indignation.
Bien sûr.
Versus aussi l'élu qui est en train de passer une question biaisée.
Bien, c'est une très bonne question. Moi, j'aimerais que Polaire puisse résoudre l'ensemble des problèmes démocratiques. Ça serait quelque chose de merveilleux. Ceci dit, on ne peut pas attaquer toutes les problématiques de front. Et c'est-à-dire que la problématique qui est annoncée là, c'est-à-dire une forme de cynisme que je partage parfois sur la manière dont nos dirigeants politiques vont pouvoir instrumentaliser certaines questions, instrumentaliser certaines consultations pour pouvoir arriver à leur fin, c'est quelque chose qui est partagé. Ceci dit, on se rend compte que dans la manière de faire, il y a aussi des billets qui vont être déposés.
Ouais.
C'est-à-dire que dans la consultation en elle-même,
aussi.
On va pouvoir faire une consultation, mettons, un mardi à 14h. On va se retrouver avec très peu de personnes. On va se retrouver avec des personnes qui vont être mobilisées, des personnes souvent plus âgées, plus aisées. Donc, on a une certaine démographie des individus qui vont participer à la vie publique. Et ça, ça concourt à créer des billets. On retrouve également la question de l'anonymat sur les plateformes publiques qui va créer des enjeux ou le fait qu'on est dans une ère de contre-vérité où ça va être très compliqué de vérifier l'information. Tout ça, ça concourt à avoir un débat public qui n'est pas pertinent. Et nous, ce qu'on va créer avec Polaire, c'est une alternative à ces éléments de friction-là dans le débat public. C'est-à-dire que chacun et chacune va pouvoir s'exprimer dans sa langue, en tout temps et en tout lieu, pour pouvoir permettre à des personnes de différents parcours personnels ou politiques de pouvoir partager son opinion. Ça ne va pas résoudre la question du cynisme politique, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, si le décideur veut pouvoir prendre cette information-là et en faire quelque chose qui n'est pas nécessairement dans le bénéfice de la population, il va pouvoir le faire.
Mais c'est autre chose. Oui,
la population va avoir la donnée, parce qu'on va être complètement transparente, la population va avoir la donnée sur le fait que, eh bien non, il y a eu X% de la population qui s'est exprimée de cette manière-là, ça va être transparent, ça va être dit, et on va permettre à davantage de personnes de participer à ce processus-là.
Et en même temps, les villes, c'est ton fruit bas, comme ils disent en anglais, le low-hanging fruit. Et c'est pas aussi le mal-aimé de la démocratie, c'est pas l'endroit aussi où il y a le moins de participation. Donc c'est quand même, t'es pas allé choisir le plus facile pour essayer de corriger quelque chose.
Bien, je connais pas Polaire, mais moi, ce que j'entends, c'est que imputabilité, transparence, moi, c'est de la musique à mes oreilles, en fait. Parce que un des grands problèmes qu'on a dans tout système politique, c'est la capacité qu'ont certains élus à instrumentaliser le processus pour prendre des décisions qui vont pas dans le sens de ce que souhaite la majorité de la population. Hein, la démocratie, ça se résume pas à voter une fois ou quatre ans, mais il faut s'assurer pendant la
ça
durée des
pas.
Mandats.
Bien,
en tout cas...
Et d'autant qu'on a les outils pour...
Et voilà,
aller
des outils loin, de cette nature-là, si on veut être sûr que l'imputabilité se maintienne, ça va dans le sens de tenir les élus à la raison pour laquelle ils sont au pouvoir. C'est parce que la population a décidé qu'ils le seraient, mais pendant la durée du mandat, il est important qu'en temps réel, en fait, ils s'assurent qu'ils ont toujours l'appui de la population. Alors, on a des outils numériques absolument formidables, si tant est qu'on s'en sert bien. Maintenant, entre avoir l'outil puis forcer les élus, justement, à respecter ce qui va ressortir de ces outils-là, il y a tout un enjeu de structure institutionnelle, on est d'accord.
Ouais.
Mais un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois, et en ce sens-là, le potentiel des municipalités, pour moi, est vraiment grand, alors que si on s'attaque à réformer les débats parlementaires à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, c'est possible, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc, moi, je crois beaucoup au potentiel de créer ce contre-feu-là à partir de la base, puis que si ça fonctionne bien, puis que ça crée vraiment... Parce qu'en principe, les élus, là, ils sont généralement de bonne foi. C'est très rare, là, un élu à la sauce Palpatine dans Star Wars. Oui, tout à fait. Ils sont là, ils veulent prendre les meilleures décisions pour la municipalité. Mais là, il y a de plus en plus, et c'est alimenté par les réseaux sociaux dysfonctionnels, une mise à distance et une méfiance respective des citoyens par rapport aux élus et des élus par rapport aux citoyens.
Il y a des démissions même chez les élus. Là,
tout à fait. Mais on se trouve à essayer de contourner les zones de délibération pour éviter les débats corsés. Ça, c'est pas l'approche. C'est antinomique avec la démocratie.
Ouais.
On va pas dans le bon sens. Maintenant, entre des débats corsés puis des débats qui dérapent complètement, il faut qu'on trouve une manière d'avoir des débats
apaisé, constructif, puis que autant du côté citoyen que du côté des élus, on travaille ensemble, même si c'est difficile à entendre puis qu'on n'est pas d'accord, à arriver à un processus démocratique qui va dans le sens du bien commun.
Et comme tu le dis, je pense que c'est une notion importante que le numérique peut nous permettre. C'est en temps réel, c'est pas aux 4 ans.
Tout à fait. Mais le problème avec le numérique, c'est aussi très, très facile de l'instrumentaliser s'il n'y a pas les mécanismes de reddition de comptes. Parce que les consultations d'apparat, les trucs en disant « on vous a consulté, on a envoyé des sondages », après ça, on garde les résultats pour nous, puis on fait dire ce qu'on veut aux chiffres qu'on a obtenus. Ça peut être par la question qui a été posée, mais ça peut être aussi par une opacité par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Puis après ça, on dit en gros, fiez-vous sur nous, la majorité de ceux qui se sont exprimés étaient d'accord avec notre projet de troisième lien. Alors, au-delà de ça, je le dis, on est à Québec, hein, mais bon. Et donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment fondamental d'avoir des structures comme ce projet-là, mais qui va venir avec une consultation transparente. Il faut que le résultat de la consultation, tout le monde ait accès avec des garanties là, d'indépendance
oui.
au résultat de la consultation pour ne pas se faire remplir par les élus puis s'assurer que la décision, elle a été avalisée effectivement par une majorité.
Donc, on est en train d'aller au-delà du fameux panel dans les villes là, où on a quatre élus en avant.
Ben voilà.
Une salle avec deux micros, puis on a l'impression d'être écouté, mais...
Puis vous me battrez dans 4 ans si vous n'êtes pas d'accord avec mon bilan. Ça, c'est une vraie catastrophe là, pour alimenter le
pour
cynisme. Puis on a plein d'outils, en fait, là, dont certains en émergence, pour être capable de renverser le narratif.
Mais Gabriel, de votre côté, chez Polair, avez-vous l'intention d'avoir cet élément de reddition de compte?
Oui. Bien, c'est une excellente question. Et pour rebondir simplement sur ce que tu mentionnais, je pense que la technologie a une triple opportunité et beaucoup de menaces, beaucoup de défis également posés à son utilisation dans les réseaux sociaux notamment. Mais la technologie présente quand même des opportunités pour la démocratie en termes de mise à l'échelle de l'opinion publique, en termes d'intégration sociale, de diversité d'opinion et en termes d'ouverture en termes de continuum, comme on le mentionnait, pour pas que ce soit tous les 3-4 ans qu'on puisse voter. Je trouve que la vie citoyenne, de manière générale, est en dormance et qu'il faut davantage pouvoir la faire vivre. On la fait vivre de deux manières à Polair. On la fait vivre de manière top-down, donc descendante, dans le cadre d'une consultation publique sur laquelle les citoyens et les citoyennes vont être invités à s'exprimer sur une consultation, sur une thématique donnée. Donc là, ça va être porté par la municipalité ou le gouvernement. Et dans ce cas-là, les données vont appartenir au gouvernement. Ça n'appartient pas à Polair. Donc on va tout leur donner. Parce que par la loi 25, on est obligé, quand c'est à l'initiative d'une municipalité, de leur offrir les données. Et après, on encourage fortement la transparence dans l'utilisation de la plateforme. Après, ce qui nous intéresse d'autant plus, et c'est là où il y a une vraie innovation de Polair, c'est le côté bottom-up, c'est le côté grassroots, où là, je pense qu'il y a une vraie innovation sociale et technologique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des commentaires citoyens qui vont dépasser le cadre de la consultation, de manière à ce que les citoyens et les citoyennes puissent s'exprimer en tout temps et en tout lieu, dans leur langue, dans leurs mots. Et ça dépasse largement à la fois le processus électoral et consultatif. Et donc cette information-là, elle va être non seulement être transparente pour les citoyens, gratuite pour les citoyens et citoyennes, mais elle va composer une base de données, une base d'action sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir prendre de meilleures décisions en tant que décideur, mais aussi pouvoir influencer éventuellement la prise de décision en tant que citoyen, puisqu'on va avoir des données probantes sur ce que les individus pensent en termes d'écologie, d'environnement, d'éducation, et ça va nous permettre en fait d'avoir une base commune de décision, puisque en tant que décideur, à part des sondages ponctuels qui vont aller chercher, pêcher de l'information sur une minorité d'individus, des soupers spaghettis, on va parler à quelques personnes sélectionnées ou du moins qui font partie de notre réseau, eh bien c'est très difficile de prendre le pouls de la population. Et donc cette transparence, cette gratuité qui est offerte aux citoyens dans les modèles d'expression avec une continuité, pour nous, c'est essentiel dans la reddition de comptes.
Mais question recherche aussi, l'échantillonnage des gens qui se déplacent pour un souper spaghettis ou qui vont aller dans un outil démocratique comme ça n'est peut-être pas nécessairement le représentatif de toute la... Comment vous les allez adresser, cet aspect-là des choses? Comment, dans 5 ans, par exemple, on a créé une culture démocratique où les gens reviennent quotidiennement, à la limite? Il me semble que j'ai vu un vieux film de science-fiction où il y avait des boutons comme ça, où les gens étaient devant leur poste de télé, puis il y avait des questions de temps en temps qui sortaient d'ordre démocratique, qui faisaient 1, 2, il y avait A, B, C. Mais ils votaient comme ça plusieurs fois par jour, parce que c'était devant leur poste de télé en deux périodes de hockey. Mais je rigole à moitié. Comment on fait pour amener des citoyens lambda à venir voter, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes coopératifs, participatifs, machin, politisés. Il n'y en a pas tant que ça. Comment on crée quelque chose qui amène ce phénomène-là? Comment on va avoir fait ça? Mettons qu'on le regarde dans 5 ans, on a réussi à le faire parce que
Mais c'est un changement culturel qui est important, à mon sens. Polaire fait partie de l'équation, mais Polaire ne peut pas tout faire. Et je pense que c'est un changement culturel qui doit être porté par les décideurs publics, par la culture, par l'enseignement, par l'éducation, de manière à ce qu'on puisse rendre la démocratie vivante. Cette démocratie vivante, elle est composée de chacun et chacune d'entre nous qui va prendre la décision de participer, peut-être à Polaire, mais peut-être ça veut dire aussi participer à un conseil de quartier. Peut-être ça veut dire participer à une réunion de parents d'élèves dans laquelle on va prendre des décisions importantes. La vie démocratique, elle se vit à différents paliers, à plein de moments de la vie. Et je trouve que c'est important de réinsuffler, en fait, cette dynamique-là dans nos existences. Après, la manière dont Polaire va pouvoir être participatif du plus grand nombre, comme je l'ai mentionné, c'est de retirer la friction à la participation. Il y a un sondage d'Ipsos que je mentionne souvent de 2017 qui pose la question: pourquoi est-ce que les Canadiens et Canadiennes ne participent pas finalement à leur vie politique?
Oui.
La première réponse, c'est le manque de visibilité. Donc, j'étais pas au courant que ça se passait, etc. Bon, tout à fait normal. Et puis, les deux autres réponses sont très intéressantes. C'est: je n'ai pas le temps et je n'ai pas le sentiment d'expertise ou de compétence pour pouvoir participer à la vie démocratique. Et ça, c'est deux éléments qui me chagrinent énormément parce qu'effectivement, comment demander à des personnes qui vont gérer une famille de participer à leur vie démocratique quand on est déjà pris en étau par notre vie professionnelle, notre vie personnelle et notre vie citoyenne, finalement, est laissée complètement de côté. Donc, en faisant en sorte d'offrir un canal simple, sans friction, pour pouvoir s'exprimer, sur lesquels on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des compétences particulières pour pouvoir le faire, on n'a pas besoin de s'exposer dans une salle à savoir maîtriser le français, par exemple, eh bien, on va retirer de la friction à l'expression et on va permettre qu'il y ait davantage de personnes qui vont pouvoir participer. Mais je pense que la réponse doit être collective. Polaire fait partie de l'équation, mais la réponse dépasse largement Polaire.
Ah, la réponse doit être collective, je suis complètement d'accord. Je veux dire, il ne faut pas attendre. L'essai que je viens de faire paraître, en fait, c'est: la démocratie ne se défendra pas toute seule. Puis je me suis inspiré d'une ligne de Tim Snyder, en fait, qui est un historien spécialiste du fascisme, en disant: les institutions ne se défendent pas toutes seules. Et là, on est dans le diagnostic, encore une fois, il a été posé, on est dans un moment autoritaire. Il y a une montée des autoritarismes un petit peu partout.
Ouais.
La trajectoire, au Québec, on est encore dans une situation enviable. Quand on se compare, on se console, là, surtout quand on se compare à l'orange gluante au sud de la frontière. Mais dans les faits, il est clair que la trajectoire ne s'en va pas vers plus de démocratie dans l'état actuel des choses.
Parce que tous les enjeux environnementaux qui s'en viennent ne vont qu'empirer notre vie.
Et qui vont être écartés avec C5, avec Carney, au nom de la crise. On se trouve à écarter entièrement l'évaluation environnementale parce qu'il faut qu'on y aille à courte vue, alors que dans les faits...
Ouais.
Mais c'est existentiel, le mur climatique. On n'en parle plus parce que ça a été supplanté par des crises qui, à courte échéance, sont encore plus menaçantes, comme par exemple le conflit, la possibilité d'embrasement planétaire au sens de conflit d'une guerre avec l'Iran, etc.
Clairement.
Mais il n'en demeure pas moins que, s'il y a deux ans, on était déjà en train de se dire: si on ne s'attaque pas au réchauffement climatique, on est doomed. Et là, il faut y revenir. Et là, c'est comme si on l'avait mis complètement sur le back burner. Alors, tout ça pour dire qu'il faut absolument prendre conscience du fait que c'est par le contact communautaire qu'on va être capable de forcer ensuite les dirigeants à respecter ce qui est nécessaire pour qu'une démocratie demeure une démocratie. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret, et ce n'est pas eux-mêmes qui vont décider de toujours venir demander l'avis à la population.
Ouais.
Alors, il faut trouver pour reprendre...
Les avis viennent avant qu'ils soient demandés. Et j'entends un truc important,
oui.
Ce que tu dis aussi, c'est le côté communautaire.
Oui.
On revient à petite échelle. Petite échelle changera le monde, si
Mais
on
pour
veut.
Recréer du lien, ouais. Pour moi, il faut commencer petit
dans
pour être capable
ville,
ensuite de généraliser la ville, le quartier, etc. Mais pour ça, il faut absolument recréer une culture de l'implication, puis briser cette impression-là qu'on n'a pas l'expertise pour aller au conseil municipal ou pour participer à des débats via une nouvelle plateforme comme Polaire.
À ces choses-là, puis pour ça, j'amenais aussi l'environnement sur le terrain. On y va quand ça va mal.
Oui, mais là, ça va
si
mal.
On a les pieds dans l'eau. Oui, mais c'est
non,
encore
mais on a,
dans le sens...
Mais où... on a encore l'impression que ce qui se passe, notamment au sud de la frontière, c'est très, très loin de nous. C'est comme un film qu'on regarde. Nous,
ouais.
Ça ne va pas nous arriver au Québec. Nous, on est différents.
Jamais chez nous.
Exactement. Et ça, c'est le pire piège dans lequel on peut tomber.
Ouais.
Et de toute façon, on le voit depuis les dernières années, on s'en va vers un effritement progressif de la démocratie. Alors, évidemment, il n'y a rien de spectaculaire comme ce qui se passe au
comme
sud de la frontière.
Avec...
Ça commence toujours par des petits affaiblissements. Puis quand on arrive au moment Trump, ben, il est trop tard.
J'entendais même la première ministre ce matin dire on va trouver le sonneur d'alerte qui a envoyé le courriel du ministre des Finances.
Ben voilà.
Puis on va le mettre à la porte qu'on a mis à la porte l'autre avant.
Alors qu'on devrait le remercier.
Mais oui!
C'est ça. C'est la question.
C'est son réflexe. J'ai été terrifié d'entendre ça.
Mais ça va dans le sens d'une managérialisation de l'État. C'est-à-dire oui. que on vote. Quand je dis là en boutade que la démocratie, ça ne se résume pas à voter une fois aux quatre ans, si c'est ça la démocratie, bien effectivement, François Legault, le premier ministre, ce n'est plus, là, mais quand il l'était, c'est le patron du Québec.
Oui.
Puis pendant quatre ans, il y a eu le mandat.
Qu'on a eu d'avoir des chefs comme ça.
Là. Exactement. Et ça, c'est vraiment antinomique avec l'idée même de démocratie.
Ouais. On ne gère pas un gouvernement comme on gère une entreprise.
Comme on gère Air Transat. Non.
On va dire ça à M. Lambert aussi, qui voulait se présenter à la mairie de Montréal.
Ce serait idéal, oui, effectivement.
Ça serait peut-être pas le meilleur candidat. Mais donc, c'est ça que tu abordes, toi. Mais je ne t'ai pas demandé d'entrée de jeu. Pourquoi tu as créé Polaire? Ça vient d'où, cette idée-là, dans ton cas?
Polaire. Ça vient du fait que, alors plusieurs, évidemment, courants de pensée qui se conjuguent. Quand j'avais 19 ans, j'ai travaillé dans un bureau politique avec une députée. Donc, j'étais stagiaire à l'époque. Je répondais aux courriels, aux courriers des citoyens et citoyennes. C'est vrai?
Je ne dirais pas pour quelle partie, c'était celui de mon père.
Mais ça apprend beaucoup parce qu'on est au contact de la population. On est ouais. vraiment au plus proche des besoins des citoyens et des citoyennes.
Ouais.
Et évidemment, je me suis confrontée également à la fois la bonne volonté des élus, comme tu mentionnais, qui sont bien ouais. intentionnés, qui souhaitent qu'il y ait quelque chose de conséquent, qu'il y ait des changements qui soient portés à la population, mais de l'autre côté, au délai de l'administration, au délai des gouvernements qui sont intrinsèquement créés dans nos structures institutionnelles et décisionnelles. Et de l'autre côté, le même été, j'avais 19 ans, je travaillais à McDo et je servais des burgers. Et je me suis dit, comment est-ce que c'est possible qu'on puisse servir, avec toute l'ingénierie qu'on peut retrouver à McDonald's, comment est-ce que c'est possible qu'on puisse servir aussi rapidement, aussi efficacement les citoyens quand viennent commander un burger?
Et que de l'autre côté, je vois.
Et que de l'autre côté, parce que je l'ai vécu dans la même année, en fait, de l'autre côté, quand on a des citoyens et des citoyennes qui viennent avec des cas d'immigration, avec des choses qui sont complexes, qui touchent à leur qualité de vie, il y a des cas qui sont quand même assez importants, qu'on ne puisse pas leur offrir le même niveau de service, alors qu'on a toute la bonne volonté du monde et du temps et du personnel qui est dédié à ça. Alors on s'entend que traiter un cas d'immigration, c'est plus complexe que servir un burger, ouais. mais justement, parce que c'est plus complexe, parce que c'est humain, parce que c'est plus important, en fait, c'est infiniment plus important, on devrait avoir des services qui soient à la hauteur, en réalité, des ouais. enjeux.
Et moi aussi, pour avoir travaillé dans un bureau politique, ça m'avait horripilé. Mais ce que j'avais trouvé intéressant, comme toi, c'est qu'on recevait les demandes des citoyens et oui. que le citoyen s'attendait que le politicien résolde ou passe par le bon fonctionnaire pour trouver. Ce qui m'avait horripilé, c'est qu'à à l'approche des élections, ils avaient déchiqueté tous les dossiers. Tout était à recommencer. C'est
mais oui.
une absurdité sans nom.
Et les adresses courriel changent aussi. C'est ça qui est intéressant. En parlant avec des élus, on se rend compte que, comme les adresses sont nominatives, déjà, il faut trouver l'adresse courriel, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir, de naviguer, de savoir comment y aller, de trouver l'adresse courriel. Puis c'est l'adresse courriel, on envoie un courriel, ça va se retrouver sur la pile de courriel.
J'ai-tu le droit, c'est pas mon parti nécessairement, j'ai pas voté pour eux.
De trouver sur la carte, par exemple, parce qu'on a parfois un chevauchement de différentes circonscriptions pour une même ville. Admettons, oui, Mirabel, oui, on peut avoir la circonscription de Mirabel, mais on a d'autres circonscriptions qui viennent par-dessus. Donc c'est très compliqué pour le citoyen de se retrouver. Et c'est des enjeux qui sont quand même assez importants sur lesquels, moi, je trouve qu'un citoyen qui se déplace, qui va partager sa problématique et qui attend que le gouvernement le résolve, c'est un citoyen qui n'a pas été accompagné avant. C'est un citoyen qui est un peu à bout de souffle, en bout de course, finalement, et ouais. qui n'a pas eu nécessairement la structure et les outils adéquats pour se faire entendre préalablement.
Donc, Polaire pourrait devenir un one-stop shop. C'est l'endroit où on va aller pour faire valoir notre voix.
Effectivement, on souhaite que ce soit une ligne d'écoute politique intelligente qui permette à chacun des citoyens et des citoyennes de s'exprimer naturellement, en bottom-up, en tout temps et en tout lieu, et que nous, on puisse soit amener des cas généraux à l'ensemble de la population, soit amener des cas plus particuliers aux décideurs publics pour qu'ils puissent prendre action sur ces éléments.
Super intéressant. Vous voulez acheter quelque chose, M. Louis-Philippe?
Bien, moi, je trouve l'outil formidable, mais encore une fois, l'outil, il doit venir avec des mécanismes d'imputabilité, parce que dans les faits, l'outil a beau être le meilleur outil au monde pour être capable de prendre le pouls de la population puis prendre les décisions les plus éclairées. Ouais. Il permet plusieurs instrumentalisations dans la question qui va être posée, dans les options qui vont être offertes et qui
c'est
peuvent tout à fait écarter ouais. les priorités qui seraient celles de la population. Fait que, encore une fois, de l'outil à l'utilisation qu'on fait de l'outil, il y a souvent un écart très, très important
ouais.
et ça revient à la révolution culturelle à laquelle on va devoir se confronter si on veut que la démocratie demeure la démocratie. C'est tout à fait possible.
Une démocratie à la grecque où on...
Non. Non, la démocratie à la grecque, c'était en plus, ça excluait beaucoup trop de gens. C'est-à-dire que c'était très, très peu de gens qui décidaient. C'était une forme de...
C'est pas le monde qui avait l'occasion ou le choix d'aller...
Ils débattaient entre nobles, en fait, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui votaient pas, puis qui, bon... Alors, une démocratie vraiment universaliste et universelle, il y a moyen, et la démocratie devrait nous permettre d'avoir vraiment, de renforcer la démocratie, mais dans l'état actuel des choses, malheureusement, via des plateformes, on y revient, hein, on boucle la boucle, comme les réseaux sociaux possédés par Elon Musk et Mark Zucker, machin... Ça, ce n'est pas des plateformes qui vont dans le sens de ce qui est nécessaire pour la démocratie.
Dans le sens de leur intérêt.
Alors, il faut arrêter d'essayer de les réformer, ces plateformes-là, puis il faut créer des initiatives et des alternatives qui vont permettre d'utiliser le potentiel du Web 2.0, là, de la technologie participative, pour être capable de les renforcer concrètement, parce que sinon, ils vont servir à nous remplir collectivement et à concentrer le pouvoir dans des mains de moins en moins nombreuses, économiquement comme au sens démocratique du terme.
C'est pour ça que des initiatives comme Polaire ou bien Sociable, dont on parlait dans l'entrevue précédente, vont être importantes. Sociable, la nouvelle place, vont être importantes pour ça. Je pense qu'on compte sur les gens. Il faut que ce soit des opportunités de créer quelque chose localement. Après, on verra si ça rayonne.
Une roue de hamster. Voilà, c'est ça. Il faut faire tourner la roue.
J'aimerais vous remercier tous les deux. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps cet après-midi. C'était une conversation super agréable.
Grand plaisir. Merci. Merci beaucoup.
Merci. Merci vraiment.